France Inter, le 18-20.
Et si on supprimait le périph', dites-moi, et si on supprimait tous ces contournements de villes qui sont autant d'autoroutes urbaines construites avant la pollution, avant le réchauffement climatique, avant les particules fines, à l'époque des 30 glorieuses qu'on Pompidou pouvait dire, bah, c'est vrai que c'est bruyant tout ça et c'est polluant, mais les Français aiment leur bagnole. Ce raisonnement, il est bien fini. Alors, supprimer peut-être pas tout de suite, peut-être pas forcément, mais ces autoroutes, les villes travaillent de plus en plus à en faire des boulevards urbains, à les intégrer dans la ville, dans le tissu urbain. Ça a été le cas à Nantes par exemple, ça a été le cas à Lyon, repenser l'ensemble, en finir avec les routes qui coupent intégralement la ville. En attendant donc, il existe des solutions intermédiaires. La mission d'information et d'évaluation sur le périph' à Paris par exemple l'a dit. Alors vous qui nous écoutez peut-être sur le périph' ou vous êtes forcément dans un de ces bouchons, eh bien regardez autour de vous si la file de gauche était réservée au covoiturage exclusivement. Et si vous aviez ramené deux de vos collègues, peut-être que vous seriez déjà arrivé. Si les poids lourds étaient interdits, peut-être aussi. Si la limitation était à 50, on n'en sait rien. La fluidité générale, en tout cas, serait, paraît-il, meilleure. Repenser les autoroutes urbaines, repenser les périphes et les contournements, on en parle ce soir et soyez le bienvenu.
Fabienne Saint-Pès. Le téléphone
sonne. Et même les bienvenus d'ailleurs, et c'est vous qui commencez, Eric. Bonsoir, Eric.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Oui, bonsoir. Ben, alors, moi, en fait, c'était juste pour témoigner. Je suis un ancien Lyonnais de Lyon et nous avons quitté l'agglomération lyonnaise il y a 10 ans, tout simplement parce que ma fille avait une maladie de peau et moi, j'étais asthmatique. Et depuis que nous sommes dans un département rural, ma fille n'a plus eu aucune maladie de peau et moi, je ne suis plus asthmatique. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de la pollution de l'air et des dangers dus à cette pollution. Et j'appelais aussi pour témoigner qu'à Lyon, la ville de Lyon, toute le tronçon d'autoroute A6 qui passe dans l'agglomération de Lyon a été transformé en boulevard urbain.
Attendez, Eric, excusez-moi, à mon avis, je ne sais pas comment est votre téléphone, mais coupez le haut-parleur et parlez sans haut-parleur, vous allez voir, ça ira beaucoup mieux. Parce que je vous entends très mal, en fait.
Oui, merci beaucoup.
Alors non, je vous entends pas mieux du tout. Mais j'ai bien compris ce que vous étiez en train de nous dire. On vous entend vraiment pas, Eric. Je suis absolument désolé. Vous disiez que un bout de l'autoroute A6 avait été redéfini à Lyon comme une sorte de boulevard urbain. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction et que la vitesse était passée à 50 km/h et que ça avait peut-être en partie tout changé. C'est une bonne entrée en matière. Merci beaucoup, Eric. On a compris l'essentiel de votre question pour tenter d'y répondre et pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Frédéric Errand est là. Bonsoir. Vous êtes économiste, urbaniste et maître de conférence à l'université de Lille 1. Et bonsoir à vous Mathieu Flonneau, vous êtes historien, maître de conférence en histoire contemporaine à Paris 1, Sorbonne, spécialiste de l'histoire des mobilités. Qu'est-ce qu'on peut dire, Frédéric Errand, de ce que nous explique Eric? D'abord, cet exemple de Lyon, de l'autoroute A6, il y en a d'autres. Est-ce qu'il est emblématique de ce qu'on peut faire, de ce qu'était autrefois une autoroute urbaine et qui devient un boulevard urbain?
L'autoroute A6 n'est pas encore transformée en boulevard urbain.
Alors pas toutes, on ne parle pas de toutes, on parle de ce passage-là à Lyon.
Oui, mais celui-là, c'est un projet hein, pour l'instant. Non, il y a des choses plus avancées. D'abord à Nantes, on a converti deux autoroutes urbaines, soit près de 6 km en boulevard à deux fois une voie au lieu d'une autoroute à deux fois deux voies, la 801 et la 811. À Marseille, on a fait reculer la 7 qui allait jusqu'à la porte d'Aix de 700 mètres. On a foudroyé le viaduc en août 2010 et aujourd'hui, on est en train de terminer un parc urbain, des équipements, des logements. On pourrait citer plein d'autres exemples. À Montreuil, la 186 va être transformée en boulevard urbain, plus tramway, plus bande cyclable. Enfin bon, c'est plus sympa quand même.
Ça veut dire qu'on y est, en fait. Vous parliez, j'adore le terme que vous avez employé, vous dites foudroyer la route.
Oui.
Ça veut dire qu'on y est. On est en train de foudroyer.
Parce que c'était la technique de démolition la plus commode. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis. Parce que là-bas, il faut savoir que toutes ces autoroutes sont anciennes et souvent délabrées, très coûteuse à reconstruire, et on se pose la question désormais pour toutes les autoroutes les plus anciennes de savoir si oui ou non il faut les reconstruire à l'identique ou remettre tout à niveau, refaire des avenues, des boulevards, plutôt qu'une autoroute souvent en surplomb et souvent à deux étages.
Mathieu Flonneau, on parlait de la tendance en fait. Est-ce qu'une tendance est prise? Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, on va le dire comme ça, un contournement type périphérique ou autre, aujourd'hui c'est has-been, ça ne se fait plus, on ne retournera jamais en arrière. En fait, on va travers même la si ce n'est la destruction, en tout cas la très grande modification de ces espaces routiers-là.
Il n'est pas question de revenir en arrière, je pense, effectivement, il est question de civiliser vraiment l'automobile. Et il y a plusieurs lectures du rapport de la mission d'information d'évaluation que vous avez donné à l'instant. Il y a une lecture qui serait effectivement cette archaïsation définitive de la culture routière. Et puis il y a une lecture, à mon avis, entre le texte qui est peut-être plus subtil, c'est-à-dire qu'au contraire, on va chercher à optimiser une infrastructure qui a ses spécificités, hein, parce que vous avez commencé en parlant d'autoroute urbaine, on peut contester cela totalement dans le statut même de la gouvernance du périphérique parisien qui est une voirie communale. Et de ce point de vue-là, c'est quand même quelque chose d'absolument essentiel parce que sa construction, elle, a recouru à plusieurs types de budgets. Ce qui signifie aussi que la région a un mot à dire, l'État a un mot à dire qu'il l'a financé.
La région, l'État, la ville, c'est pour ça que ça rend les choses moins faciles que ça peut en avoir.
Voilà, oui, et puis c'est aussi des leçons récentes des fermetures des voies express, d'une certaine portion des fermetures des voies express, qui obligent à la concertation. Et donc la grande sensibilisation et la grande sensibilité politique du sujet aujourd'hui, du périphérique, parisien, mais j'ai bien entendu que votre débat était plus national, voire international, et les exemples sont indiscutables, ceux donnés par Frédéric Héran, mais tout de même, il faut voir quelle ville on produit derrière. Et de ce point de vue-là, il faut réfléchir aux équilibres sociologiques de ces cités.
Mais puisqu'on parle de Paris, parce qu'après tout, parlons-en aussi, tout le monde voit à quoi ça ressemble, effectivement, ce périphérique autour.
Je suis pas certain que tout le monde le voit, justement. Je suis pas certain que tout le monde, parce que vous avez aussi évoqué un argument en commençant, en disant, vous êtes probablement dans les bouchons. Oui, ça c'est une évidence. Toutefois, le boulevard périphérique est la chaussée parisienne la plus efficace. Et s'il n'avait pas cette efficacité, s'il ne rendait pas ce service aux automobilistes de toute l'Île-de-France, puisque c'est le boulevard central de l'Île-de-France.
Plus que ça, parce que moi j'ai découvert ce chiffre en préparant cette émission, c'est la route la plus fréquentée d'Europe, en tout cas
Et si elle n'avait pas cette efficacité,
1 500 000 personnes, ça fait beaucoup de gens. Mais est-ce qu'il y a moyen de la rendre, sans la faire disparaître, de la rendre plus fluide? Parce que c'est ça le principe.
Eh bien, il faut la penser, avec les outils aujourd'hui qui permettent de penser une culture routière moderne, qui ne soit pas archaïque. Il faut penser, et effectivement, il y a des options proposées dans le rapport, qui suivent d'ailleurs des tendances, parce que la tendance à la réduction de la vitesse, elle avait été testée déjà en 2014, et ces résultats ont été plutôt positifs dans le sens où ils ont fluidifié le trafic. Alors là, symboliquement, la descente à 50 est effectivement une marche supplémentaire, mais les voies réservées pour des véhicules éventuellement de transport public, parce que la route n'est pas un mode, la route est une infrastructure susceptible de porter beaucoup de services.
Pour le transport public, pour le covoiturage aussi, ça nous vient à cette question de Patrick de Toulouse. Est-ce qu'on peut imaginer des périphériques urbains où il n'y a pas de bouchons? Est-ce que c'est possible? Est-ce que, qu'on parlait de fluidité tout à l'heure, de la réduction à 50 km/h, c'est pas seulement les particules fines, c'est aussi en termes de fluidité. Est-ce qu'on peut imaginer une infrastructure de ce genre-là qui serait fluide, Frédéric Héran? Je vous vois faire non avec la tête. Au fond, c'est impossible, en fait.
Oui, alors pourquoi c'est impossible? Parce que la voiture prend une place absolument énorme par personne transportée. On ne se rend pas bien compte, mais il faut savoir que dès qu'on achète une voiture, il faut déjà lui trouver, rien qu'en stationnement, 70 mètres carrés. Soit plus que pour une personne humaine.
70 mètres carrés, c'est-à-dire parce que les garages,
il faut trois places de stationnement, pour faire simple, une place au domicile, une place au travail, plus une place partagée aux différents services. Voilà, c'est de cet ordre. Ensuite, en circulation, elle prend aussi beaucoup d'espace. Et tout cet espace, il est absolument considérable par rapport à des modes plus économes, comme la marche, le vélo, les transports publics. Et c'est pour cela que dès qu'on a un peu de densité urbaine, eh bien ça coince. Et c'est inévitable. Donc la voiture prend comme un gaz toute la place qu'on lui donne, en fait, en zone dense, quoi.
Bonsoir André.
Oui, bonsoir.
Puisqu'on est à Paris, restons-y, allez-y André.
Oui, justement, moi je suis actuellement là en Bretagne, je suis sur une AMAP là quand je vous appelle, quand je vous réponds. Et je veux dire, moi je connais bien ce problème. J'ai commencé à rouler sur le périphérique dans les années 66-68 et j'ai entendu plein de choses, mais c'est des beaux discours. Je vais pas dire de technocrate, mais la ville... Moi, j'ai été candidat à Europe Écologie des Verts. Et une des villes qui est très écologique, qui est Rennes, a mis le périphérique de 90 à 70. Ils l'ont testé. Au bout de quelques mois, ils l'ont remis à 90. Parce que toutes les analyses qui ont été faites, que ce soit de nuisance, que ce soit au niveau de la pollution, et on ne peut pas reprocher à une ville qui, justement, est une des principales villes au niveau des pistes cyclables, d'être pour la voiture. Sachez quand même qu'en France, si on commençait par les pistes cyclables, on ne serait pas les derniers dans l'Union européenne. Parce que demander ça aux différents maires que je connais en Bretagne, on est les derniers au niveau des pistes cyclables. Même en Bretagne, dans le pays du vélo. Le problème, c'est que sur le périphérique, vouloir avoir un projet de mettre un périphérique à 50 km à l'heure avec une seule file, mais c'est n'importe quoi. Depuis 1968, moi j'étais hier soir à Paris, là je suis en Bretagne, je peux vous dire que ça n'a pas changé. Il y a toujours autant de bouchons. Rien n'a changé. On a essayé plein de choses. Le périphérique, on disait par contre justement que c'est une voie indispensable. Et pourtant, je ne suis pas pour la voiture, hein, mais il ne faut pas faire non plus n'importe quoi.
André,
sous prétexte qu'on veut justement changer un certain nombre de choses. Prenez l'exemple de Rennes, comme je vous l'ai dit.
Je pense
que c'est un bon exemple.
On va y venir autour de la table en vous écoutant. Nos deux invités ont fait non avec la tête. Donc, leur réponse nous intéresse grandement. Frédéric Flonneau, pour commencer. Excusez-moi. Mathieu Flonneau. Oui, bon, allons-y. Sur le kilométrage que vous avez tiqué, non? Sur le 90
km/h.
Non,
c'est sur la seule voie. La solution proposée par le rapport n'est pas du tout de réduire à une seule voie de circulation le boulevard périphérique. Justement, il est au contraire, et c'est une forme de reconnaissance de la place de la culture routière. C'est une forme de reconnaissance de cette infrastructure qui a largement démocratiser l'accès à la cité, à l'accessibilité. Mmh. Les portes de Paris n'ont jamais été aussi nombreuses que depuis que le périphérique existe.
Ce qui se dit, pour que les gens sachent de quoi on parle, c'est que parfois on réduirait effectivement le nombre de voies. Il y a des fois où on est sur 4 ou sur 5, on réduirait parfois et on libérerait une place pour le covoiturage. Donc effectivement, on n'est pas sur une seule voie de périphérique. Frédéric Errange, vous évoquiez sur « rien n'a changé », nous dit André, entre ce qu'il vivait dans les années 60 sur ce fameux périph' là ou d'autres d'ailleurs, hein, j'imagine. Et on va revenir au kilomètre tout à l'heure, hein, j'ai entendu ce qu'il avait dit sur le kilométrage à Rennes. Le rien n'a changé,
oui,
Frédéric Errand.
Si on prend un peu de recul historique, il faut savoir que dans Paris intramuros, la circulation a été pratiquement divisée par deux depuis 1990. Mm-hmm. C'est énorme. Sur le périphérique, le trafic a baissé de 15% dans le même intervalle. La vitesse dans Paris intramuros a baissé considérablement, d'à peu près 33%, passant de 21 à 14 km/h. Et sur le périph' également, elle est passée de 42 à 35 à l'heure. Bon, donc on est dans un mouvement qui est mondial de réduction du trafic auto dans les grandes villes, dans le centre des grandes villes. Et maintenant, ça atteint le périphérique, et comme à d'autres endroits dans le monde, Paris est simplement dans la moyenne mondiale.
Frédéric nous parle de son ressenti. Au fond, ça marche comme la météo, visiblement, le trafic routier. Pour lui, de toute façon, il est, quoi qu'il arrive, toujours coincé dans ce bouchon. Enfin, je veux dire,
je vous donne des statistiques, là. C'est pas un ressenti, c'est un fait.
C'est celui d'André. Je parlais de celui d'André. Les 90 km/h qui descendent à 70 et qui remontent à 90. Vous connaissez cet exemple-là, l'un ou l'autre, ou pas, à Rennes?
J'en avais entendu parler, mais enfin, il y a aussi tout un fétichisme de la vitesse dont il faut se détacher. Et je pense que l'automobilisme peut être plus efficace en étant ralenti. Et la problématique aujourd'hui, et ça je serais assez d'accord sur le sens de l'histoire, je suis en désaccord sur d'autres points, mais sur le sens de l'histoire, c'est effectivement une plus grande civilisation, un plus grand encadrement de cette grande liberté qui est donnée à l'automobiliste, mais qui doit être doublée d'une grande responsabilité, car l'argument médical a été donné tout à l'heure, il est indiscutable. L'argument de sécurité routière a été donné également, il devrait être donné, et en tout cas il est donné dans le rapport, parce que le boulevard périphérique n'est pas un endroit accidentogène. Mmh.
Mais il y a aussi une question de fluidité. Moi, j'avais lu une étude qui disait que la fluidité commençait autour de 60 km/h. Frédéric Errand, qu'est-ce qu'on sait de ça, en fait? Quelle est la vitesse de fluidité, donc ni trop basse ni trop haute, en fait?
Oui, c'est cela, oui. À cause de l'interdistance entre les véhicules pour assurer la sécurité des véhicules, en fait, la capacité maximale d'une voirie, sans feu rouge, hein, bien sûr, c'est autour de 70 à l'heure. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que quasiment toutes les radiales, et le cas de Rennes est une exception.
Mmh, d'accord.
Pratiquement sur toutes les rocades de France, et aussi certaines radiales à l'arrivée dans les centres-villes, on est passé de 110 à 90, ou de 90 à 70, et le cas rennais, qui ne porte que sur un tronçon, est une exception.
Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Grâce à vous, on part pour Strasbourg, allez-y, on vous écoute.
Eh bien, on peut s'interroger sur l'utilité du grand contournement ouest de Strasbourg, mais il faut le différencier des exemples que vous venez de citer, car ce n'est en aucun cas un périphérique. C'est en fait une liaison nord-sud et qui n'aura qu'une utilité, c'est le transport de marchandises du nord de l'Europe au sud de l'Europe. Alors qu'à côté, à 20 km, il y a une autoroute nord-sud allemande qui marche très bien et sur laquelle il y a une taxe pour les poids lourds polluants. Donc je vous laisse conclure tout seul. A priori, tous les poids lourds les plus polluants, pour éviter cette taxe, vont passer en France et on leur construit une grande autoroute. Et ce n'est en rien un contournement, puisqu'en fait, ce n'est pas un périphérique, il n'y a pas de sortie pour Strasbourg. Et ça ne répond en rien aux besoins des habitants, puisque les habitants, eux, veulent résoudre leurs problèmes d'accès à la ville.
Merci beaucoup Isabelle. On a beaucoup de mails, beaucoup d'appels au sujet de ce fameux contournement ouest de Strasbourg, qui visiblement, vous êtes très familier à l'un comme l'autre, Mathieu Flonneau.
Écoutez, il structure effectivement toute une chaîne d'opposition. Ce qui est dit de l'écotaxe, finalement, qui est le débat derrière, dans la ville des routes, Strasbourg, vous êtes là devant quelque chose qui est aussi assez intéressant, parce que cette écotaxe était réclamée par les élus alsaciens. Donc on n'était pas dans la problématique bonnet rouge, refus breton. Voilà, c'est quand même des éléments là qui, dans la comparaison, imposent à la route de payer son juste prix. Ça c'est une évidence. Mais en même temps, son archaïsation a un coût. Et l'archaïsation par les nouvelles mobilités de centre-ville, l'archaïsation par des effets d'aubaine réservés aux seuls résidents de centre-ville, me semble extrêmement problématique. De surcroît, elle est très anarchique. Vous avez fait des émissions sur les trottinettes, on est ravis, vous avez fait des émissions sur les services de vélo en libre-service. Leur dimension déficitaire n'échappe à personne.
Frédéric Errand, qui vous aussi connaissez ce cas de Strasbourg vraisemblablement, ce que je vous ai vu hocher la tête, à quoi ça sert en fait ce fameux contournement ouest de Strasbourg qui a l'air de focaliser toutes les
je vais remettre ça en
tous les cris des Strasbourgeois, on va dire.
Je vais remettre cela en perspective. Dès les années 20 aux États-Unis, on a essayé de préserver les quartiers du trafic automobile qui était en pleine croissance. À partir des années 60, toujours aux États-Unis, on a commencé à préserver les centres-villes. Et maintenant, depuis à Strasbourg comme ailleurs, on essaie de préserver la planète des excès de nuisances que provoque le trafic automobile. Malheureusement, les arguments des élus strasbourgeois comme du président de la République qui soutient ce projet, c'est encore de préserver la ville et pas la planète. Le grand contournement ouest, c'est un projet archaïque qui date... C'est ce qu'on préconisait dans les années 70, préserver les centres-villes pour éloigner le trafic de la ville. Mais non, c'est aujourd'hui, il y a plus urgence, c'est vraiment de réduire le trafic automobile globalement sur la planète. Et si certains veulent rouler en voiture sur Mars, ben qu'ils y aillent.
Y a Jean qui est à l'ODEV qui nous pose cette question sur franceinter.fr et qui nous dit pourquoi ne pas interdire l'autosolisme, comme on dit aujourd'hui, Mathieu Flonneau, ça fait partie des choses qui sont dans le projet peut-être
taxé,
de
oui,
périphérique, effectivement.
Mais la taxe de l'autosolisme existe parce que la congestion se produit et à partir du moment où vous créez ce que les Américains appellent les high occupancy vehicle lane, les voies dédiées aux véhicules justement de covoiturage, de carpooling, de carsharing, etc., et bien vous taxez l'autosolisme.
Toutes les lignes de droite avec un losange, tout le monde a vu ça en voyageant aux
États-Unis.
Toutes les lignes de gauche, avec un losange, chacun a vu ça en voyageant. Pourquoi ça ne s'est jamais
fait ? C'est respecté.
Alors oui, absolument, ça allait vraiment.
Mais ça a été essayé.
Parce que quand on ne le respecte pas, la police arrive très vite dans ce genre de pays.
Sur l'autoroute A4, c'est essayé. Et des files réservées aux taxis, des files... Si,
est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est respecté aussi chez nous, en fait ? Parce que est-ce qu'il peut y avoir aussi ce genre de problème ?
C'est plus difficile, mais si on s'en donne les moyens et si on pense véritablement l'infrastructure, si on la modernise, si on l'équipe, si on la dote aussi d'une dimension technologique qui ne résout pas tous les problèmes, et je partage effectivement cette absence de fétichisme technologique, et aussi cette dimension de refus peut-être fondamentale d'une automobile qui gagnerait toujours plus de place, mais enfin on peut la réguler, on peut l'améliorer.
On est sur le même sujet avec vous Jean-Philippe, donc profitez-en, allez-y, bonsoir.
Bonsoir, oui, écoutez, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Avoir des voies de covoiturage, ça va, si on n'a pas trop on a des interdistances longues entre les entrées et sorties, parce qu'autrement, pour gagner la voie de covoiturage, si on doit couper toutes les autres, ça va être compliqué. La proposition que j'imagine, c'est plutôt de dire, bien, on a des start-up qui sont brillantes en France, qui proposent des solutions de covoiturage dynamique, qui ont du mal à percer, et bien simplement aidons-les, et en disant, vous ne pouvez rentrer en ville que si la voiture est en situation de covoiturage. Ces start-up sont capables de dire tel véhicule est en situation de covoiturage. Donc après, le contrôle peut se faire même automatiquement à partir du numéro de plaque d'immatriculation.
Ouh là là, je vois Big Brother au-dessus de votre voiture et j'entends nos auditeurs avec ce genre de restrictions, Jean-Philippe.
Mais c'est pas
Big Brother. Qui contrat qui est dans la voiture au moment où vous passerez le portique de la ville.
C'est pas savoir si qui est dans la voiture, c'est dire cette voiture à 3, 4 personnes et tenir compte du niveau de pollution de la voiture. Pour dire, vous pouvez rentrer, même si votre voiture est un peu polluante, mais à condition d'avoir plus de personnes dedans.
Merci pour cette suggestion, Jean-Philippe. Il y en a beaucoup des suggestions de ce type. Alors, je ne sais pas si c'est là-dessus qu'il faut aller, mais est-ce que je me trompe ? J'ai l'impression que le covoiturage, c'est quelque chose qui s'est très peu développé chez nous, en tout cas pas suffisamment pour que ce soit significatif. Et au fond, j'en sais rien, je vous pose la question à tous les deux, Frédéric Héran.
Le covoiturage de longue distance avec Blablacar, c'est une grande réussite. Ouais. Mais le covoiturage dit de proximité, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Il y a beaucoup de freins divers, mais peut-être le principal à mes yeux, c'est le fait que la voiture sert de sas de décompression entre le travail et la famille. C'est un moment où on est peut-être peu nombreux dans la voiture, mais justement, c'est ce qu'apprécie le conducteur, c'est d'être enfin seul en écoutant France Inter, par exemple.
Exactement. Et on embrasse les gens qui sont même tout seuls en train d'écouter France Inter. Cette remarque sur franceinter.fr, frappée au coin du bon sens, on la pose une fois cette question, elle revient plusieurs fois et c'est bien normal. Améliorer la qualité des transports en commun avant de supprimer les voitures. Et au moins, on saura pourquoi on fait de la place. Évidemment que cette question revient souvent. Et on a l'impression, Mathieu Flonneau, les deux choses sont quasiment déconnectées, en fait.
Mais elles ne le sont pas du tout, elles ne l'étaient pas au moment de la construction du boulevard périphérique. Et j'ai plaisir à rappeler que, bien souvent, allez-y. Et vous avez commencé en le disant, c'est l'époque Pompidou, du tout automobile. Je mets des guillemets immédiatement et je récuse cette proposition parce que c'est cette même génération qui a construit le RER. C'est cette même génération qui a modernisé le métro, qui attendait depuis 40 ans une modernisation. C'est cette même génération qui a éclaté véritablement les limites d'un Paris intramuros dont la caducité...
La phrase est réelle, hein. Voulez-vous, les Français aiment leur bagnole, fermez les guillemets, je ne l'ai pas inventé.
Oui, mais écoutez, il y a un politiquement correct qui avait peut-être certaines vertus également par rapport à une parole technocratique aujourd'hui. Donc, je suis un grand défenseur de Georges Pompidou qui était un humaniste. Je prends plaisir à le rappeler. Il y a une dimension.
Une autre lecture, des choses.
Il y a une dimension quand même très importante sur le sujet parce que justement, il s'agit de comprendre que cette génération qui avait vécu les Trente Glorieuses, qui ne sont pas une insulte, hein, c'est une période de croissance partagée, de progrès social partagé, inclusif. Eh bien, l'automobile était un vecteur de cela dans les révolutions du travail, dans les révolutions urbaines, pour le meilleur, pour le pire, probablement. Et il faut aujourd'hui, eh bien, cautériser certaines. Plaît, mais il y a une réflexion à avoir pour finalement aussi voir des infrastructures dont l'usage est de circuler et de faire circuler les gens et de démocratiser l'accès à la ville.
Vincent, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Soyez le bienvenu Vincent.
Merci beaucoup. D'abord merci à vous pour la qualité des débats que vous animez et à l'équipe de France Inter et puis salut à Frédéric Héran aussi.
Et bien voilà, donc c'est fait. Vincent, on vous écoute.
Donc, moi, en tant que citoyen, je fais partie d'un collectif qui lutte contre ce projet d'autoroute à l'est de Rouen, qu'on nous a vendu comme un contournement. Idem qu'à Strasbourg, seulement ça va être une autoroute payante, deux fois deux voies, qui a vu le jour, du coup, dans les années 70. Le projet a vu le jour à cette époque-là. Il y a un premier tracé qui a été retoqué en raison des impacts trop importants qu'il causait sur la biodiversité, notamment la biodiversité endémique. Et malgré tout, ce projet persiste. Il y a eu une enquête publique qui a reçu 70% d'interventions négatives de la part de la population, enfin défavorables, et quand même une commission d'enquête qui a donné un avis favorable. Donc voilà, c'est 500 hectares de terres agricoles qui s'apprêtent à être bétonnées d'ici à 2024. C'est 41 km d'autoroutes payantes, donc qui ne serviront pas aux gens. Puisque je connais assez peu de gens qui vont payer 5 euros pour aller du nord de Rouen au sud de Rouen. C'est toujours la biodiversité, même si elle est ordinaire, qui est menacée par ces projets d'infrastructure. Donc voilà, nous on dit il faut arrêter de bétonner la campagne, il faut arrêter de faire payer ces infrastructures aux gens qui en plus ne les utilisent pas forcément. Et donc, dans ce cadre-là, voilà, je voulais en placer une aussi pour dire qu'on organise une fête de résistance contre ce projet-là les 22-23 juin autour de Rouen.
Et ben voilà, comme ça on l'a entendu. Vincent, merci beaucoup. Frédéric Errand, vous savez de quoi on parle. Évidemment, moi je trouve ça très impressionnant en fait, comme on a l'impression que autour de beaucoup de grosses agglomérations de ce type, on était à Strasbourg tout à l'heure, nous voilà à Rennes, il y a un problème de ce type-là.
Là, c'était Rouen. Hein.
C'était Rouen, pardon, ouais. J'ai dit quoi ?
Rennes,
pardon,
mais peu importe. Il y en a effectivement plusieurs, et à chaque fois, la vraie question, c'est de se dire quand est-ce qu'on renversera un peu la tendance ? Est-ce qu'on va éternellement, toujours, reporter plus loin le trafic automobile ? Il y a bien un jour, il faudra arrêter de construire des autoroutes urbaines, d'abord parce qu'elles coûtent un argent énorme, absolument énorme. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est 100 millions d'euros le kilomètre en ville, facilement 50 quand on est en grande périphérie. Ce sont des projets extrêmement coûteux, c'est à chaque fois plusieurs centaines de millions d'euros. Ça stérilise une fois de plus, imperméabilise des terres agricoles. En Alsace, le grand contournement ouest va passer dans les terres les plus riches d'Europe. C'est du loess, c'est une terre extrêmement fine qui a été apportée par le vent pendant des millions d'années et qui aujourd'hui, c'est 300 hectares, 350 d'ailleurs plutôt, qui vont être stérilisés. Il faudra bien arrêter un jour cette fuite en avant, car c'est une fuite en avant. C'est-à-dire que à cause de l'appel d'air que crée toujours une infrastructure, dès qu'on augmente la capacité routière, ça, on augmente inévitablement le trafic. On appelle ça le trafic induit. Mmh. Ce trafic induit sature assez vite à nouveau l'autoroute. Et alors, il y a toujours 20 ans, 30 ans plus tard, quelqu'un qui dit « mais il faut absolument régler ce problème de congestion et construire encore une nouvelle autoroute un peu plus loin ». C'est une fuite en avant. Donc cette fuite en avant, il faudra bien un jour qu'elle s'arrête, qu'on le veuille ou non.
Mathieu Fleunot, plus il y a de voitures, plus il y a de routes, plus il y a de voitures. Donc plus il y a de voitures, plus on est obligé de construire de routes. À quel moment ce cercle vicieux s'arrête-t-il ? Est-ce qu'on est en train de voir la fin de ça, justement, aujourd'hui ? Est-ce que c'est cette ère-là ?
Vous me réinterrogez sur le sens de l'histoire. Je pense que parfois, celui-ci peut connaître quelques détours. Et puis aussi, regardons effectivement de façon planétaire les enjeux. On n'a jamais vendu autant de voitures. C'est demeure une aspiration de population pour une forme de liberté qui est à certains égards très cher payée, je m'accorde avec l'argument. Toujours est-il qu'il y a une forme de croissance économique et évidemment celle-ci impacte aujourd'hui les limites de la planète. Toutefois, il faut prendre en considération cette dimension, parce que la production de la soutenabilité économique doit aller de pair avec un lien social renforcé, avec des aménités de vie, des qualités de vie,
vie
écologique.
Je comprends ce que vous dites, et en même temps, il y a forcément un goulet d'étranglement lorsqu'on entre en ville. Il ne peut pas y avoir à la fois, comme ça se trouve en ce moment, des procès qui attaquent la ville pour cause de particules fines et en même temps dire que c'est comme ça, c'est la vie, il y a de plus en plus de voitures.
Enfin, mais le nouveau monde des mobilités...
Il y a ce qui est au milieu, ça s'appelle la transition peut-être.
Oui, exactement. Ça s'appelle la transition, mais prendre en considération l'existant, parce que le coût de la transition doit bien être chiffré. Et récemment, des tensions autour des Gilets jaunes ont évoqué ces coûts de la transition. Et qui doit les supporter? Quelle équité à la taxe carbone, quelle véritable contribution des populations de centre-ville à un équilibre régional ou périurbain qu'ils ont contribué à accentuer, des péréquations à effectuer sur l'immobilier, des éléments sur les services publics, sur des effets d'aubaine de centre-ville dont ne bénéficient pas les périphéries et encore moins les zones rurales.
Oui, absolument, là-dessus je vous suis et c'est bien les débats qu'on a pu avoir effectivement au moment des ronds-points, des gilets jaunes, etc. Frédéric Errand, pour répondre à ce que disait Monsieur Fleunot.
Oui. En fait, il faut bien comprendre que la voiture est désormais contestée, et plus largement le système automobile, partout, dans tous les territoires, y compris les moins denses, mais sous des formes évidemment beaucoup moins importantes que dans les centres-villes, où la voiture est beaucoup plus ancienne. Il faut savoir que la voiture a d'abord conquis les centres-villes avant de conquérir les périphéries. Et c'est normal qu'elle soit d'abord critiquée dans les centres-villes et que la critique commence maintenant en périphérie. Alors que constate-t-on dans ces périphéries ? Eh bien, il y a des parents, par exemple, qui n'en peuvent plus d'emmener leurs enfants à l'école en voiture. Ils habitent à 300 mètres. les enfants ne peuvent pas aller seuls à l'école à pied parce qu'il n'y a pas de trottoir, ou alors que les trottoirs sont envahis de voitures en stationnement. Voilà ce qu'on entend dans des villes, dans des villages où la contestation gronde aussi.
Philippe, bonsoir.
Bonsoir.
Ah, Philippe, vous faites partie de ceux dont j'ai parlé tout à l'heure en introduction. Vous êtes dans les bouchons, alors?
Absolument.
J'espère que vous avez le kit main libre.
Oui, oui, haut-parleur, tout ça. Parce que de toute façon, je passe ma vie dans la voiture, donc voilà.
Allez-y.
Non, en fait, c'était juste pour dire que je préférais sincèrement prendre les transports en commun. Mais le matin, malgré les bouchons, je suis pratiquement le même temps que les transports en commun, voire un peu plus court. Et le soir, c'est sans aucune mesure, puisque comme je pars en dehors des heures de pointe des trains, des transports en commun, ben je me retrouve à mettre 45 minutes, 50 minutes pour rentrer chez moi, et en transport en commun, pas moins de 2 heures. Voilà. Pour faire 25 km, c'est pas super efficace. Et au-delà de ça, aussi la propreté et la ponctualité des choses, des transports en commun qui sont vraiment pas assurés en Île-de-France.
Est-ce qu'il y a un entre-deux possible chez vous, Philippe, qui consisterait à faire une partie du trajet en voiture et le reste en transport en commun, ou c'est pas possible non plus?
Non, parce qu'ils n'ont pas prévu de parking de délestement. Et s'il y a un parking de délestement, j'aimerais bien récupérer ma voiture avec les pneus.
Mathieu, merci beaucoup, Philippe. Soyez prudent sur la route en ce moment. Mathieu Flonneau, cas d'école que celui de Philippe. Des choses qu'on voit et qu'on entend évidemment beaucoup. Et évidemment, quand on fait ce genre d'aménagement dont on parle ensemble depuis tout à l'heure, il faut prendre en considération des gens comme Philippe. Tout le monde n'a pas des horaires basiques.
Oui, et puis l'intermodalité doit être encouragée, mais l'intermodalité a un coût. Le difficile accouchement de la loi d'orientation sur les mobilités, les amendements qui lui sont portés, témoignent bien du fait qu'il n'y a pas de baguette magique pour rééquilibrer une culture dont, encore une fois, et bon, l'historien patenté en tout cas peut en témoigner, 80% de la ville est construite aujourd'hui, qui est construite aujourd'hui, pour dans 50 ans, existe. Donc, n'ira pas de... Oui, coup de baguette magique.
Non, ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de coup de baguette magique, Frédéric Errand.
Oui, en fait, il faut comprendre que les situations les plus extrêmes qu'on oppose souvent à ces politiques de réduction du trafic auto ne permettent pas de les déconsidérer, quoi. C'est-à-dire que, bien entendu, il s'agit d'y aller progressivement. C'est une question de rythme. Nos élus, ils ont à trouver le bon rythme. Donc, quel est le bon rythme? C'est à eux de le dire, c'est à eux de le négocier, avec les habitants. Il faut de la concertation pour arriver peu à peu à réduire le trafic auto. Et ensuite, il y a toutes sortes de solutions qui ont encore été peu explorées. Il suffit d'aller à l'étranger pour voir que, par exemple, on a maintenant dans un pays, je sais pas, comme en Suisse, par exemple, on a plein de vélos assistance électrique, parce que c'est un pays pentu, c'est souvent une solution non négligeable. Alors, 25 km, comme le disait ce monsieur, c'est peut-être encore un peu trop long pour le VAE, mais...
Sauf que là-dessus, nous-mêmes, Paris Intramuros, on n'est pas bon, objectivement.
Si, justement, on y va vite.
Ah, on y va.
Mais
dans
oui.
Paris, honnêtement, dans Paris, c'est pas une réussite.
Non, mais c'est ce que j'ai essayé d'expliquer avant. C'est-à-dire qu'on a déjà réduit de près de moitié le trafic auto. Et c'est la droite qui a commencé, d'ailleurs. C'est pas la gauche. C'est avec Chirac qui a mis des potelets le long des trottoirs en gênant le stationnement illicite. Bon. C'est ensuite Tibéri qui a vraiment dit, il faut réduire la pollution, etc. Et aujourd'hui, on est sur un rythme de -4, -5% du trafic auto à Paris intramuros, et le vélo, lui, il s'envole à plus de 10% par an, c'est énorme. Et c'est un phénomène propre à toutes les grandes villes du monde entier, tout du monde occidental. Donc, par exemple, même aux États-Unis, il faut savoir que il y a une baisse du trafic auto dans les centres-villes, une hausse du vélo, mais phénoménale. À Washington, c'est 14% par an depuis 10 ans. Alors, ça vous paraît peu, 14%, vous haussez les sourcils, mais je vous assure, c'est énorme, parce que 14% par an, c'est déjà un doublement tous les 5 ans.
Il se trouve que je connais cette ville de Washington et qu'il y a moins de vélos rouges qu'il n'y a de Vélib qui ne sont plus des Vélib chez nous et qui marchent moyennement dans Paris. Ça, pour le coup, c'est une réalité. Mathieu Flonneau qui voulait intervenir.
Oui, mais je fais beaucoup de vélos dans Paris. Je peux témoigner du fait que c'est roulable, mais aussi que c'est limité à certaines catégories de la population, qu'il y a des exclusions possibles aussi autour de ces nouvelles mobilités, des tensions. Elles ne sont pas douces pour tout le monde. Je constate aussi qu'il y a des effets d'annonces municipales, politiques, et que voilà, il y a un degré de politisation du dossier. On n'était pas très nombreux à s'intéresser aux périphériques lorsqu'on commençait nos études, hein, il y a une vingtaine d'années.
Maintenant, on peut y aller.
Oui, ben on continue, mais justement, il y a plusieurs registres de discours, il y a des temporalités urbaines qu'il faut bien peser.
Juste en un mot, on n'a pas le temps de prendre Mélie, mais je vais prendre ma question dans sa voix. Elle dit qu'à Melbourne, en Australie, il y a des voies réservées au transport en commun et au covoiturage depuis très longtemps, et la circulation y est beaucoup plus fluide. Ce que je me demande, c'est pourquoi on est, nous, si en retard, au fond, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on s'y met plus tard ou qu'on s'y met moins bien? Il y a une raison à cela ou pas, Frédéric Errand?
Alors, Melbourne, c'est une ville très étalée, en même temps qu'il y a beaucoup de tramway et de pistes cyclables. Donc, ils ont travaillé la question depuis plus longtemps que nous. Mais le maître mot dans tout ça, c'est décalage. C'est-à-dire que, en fait, il y a des pays, des villes, des populations qui commencent et puis d'autres qui suivent de façon décalée. Et nous, on est dans la moyenne, quoi, en France. On n'est pas très avancé, c'est sûr. Mais on n'est pas très en retard non plus. Il faut pas se battre la coulpe. Non, on est dans la moyenne. Et donc, on avance à notre rythme, qui est le rythme à peu près similaire partout sur la planète. Et c'est donc, il y a un côté un peu inéluctable dans cette évolution. Et ce qu'il faut, c'est l'accélérer parce qu'il y a de plus en plus urgence.
Allez, n'accélérez pas en revanche si vous nous écoutez en voiture en ce moment. Vous pouvez pédaler plus fort si vous êtes à vélo ou en tout autre moyen de transport. Merci beaucoup, portez-vous bien.